Voilà, nous vous remercions d'être là un dimanche. On entre dans le deuxième tiers ou troisième tiers du festival. Donc, en deux mots, parce que les mêmes personnes n'étaient pas là pour la première rencontre, c'est une nouvelle formule proposée par le festival Regard Critique, à savoir la proposition faite deux personnes, donc Bruno Taquels et moi-même Georges Banu, donc de réfléchir avec les artistes autour de certains thèmes qui nous semblent, ou certains aspects plutôt que des thèmes, qui nous semblent décisifs pour la pratique théâtrale contemporaine. Au fond, il s'agit de parler des spectacles, mais aussi dans quelle mesure ces spectacles sont symptomatiques pour certaines mutations de la scène française et forcément et implicitement européenne. Donc la première réunion, la première rencontre des regards critiques a été consacrée à ce qu'on appelle les auteurs de la scène et le rapport aux contemporains, avec tout ce que cela implique comme réflexion sur la meilleure manière d'établir des liens avec l'extrême contemporain, comme on dit parfois. Aujourd'hui, nous nous attaquons à une question, je pense, extrêmement importante, le rapport au texte, qui s'intitule Se servir du texte. Donc, on va essayer de préciser le sens de cet intitulé. Demain, nous posons une question qui est une question, je crois, décisive, la question du lien. Du temps de Villars, on a défendu l'idée du théâtre comme élément organisateur de la communauté. Brecht adoptait une autre position, donc où nous en sommes aujourd'hui. Et ensuite, l'avant-dernière rencontre est consacrée aux acteurs, au statut de l'acteur aujourd'hui. Et l'ultime rencontre, le 24, c'est une réflexion sur le centre et la marge, sur l'institution théâtrale aujourd'hui, ses responsabilités et ses mutations. Voilà, donc peut-être avant de commencer, on peut vous présenter les invités. Donc, Jan van Dyck, comment on dit exactement? Van Dyck.
C'est Peter Perceval.
Peter Perceval, c'est pas Jan van Dyck.
C'est pas.
Non, non,
Pourquoi
Jan van Dyck n'est pas ici.
Ah, moi je.
C'est ma faute, Georges. C'est totalement de ma faute. On pourra y revenir. C'est
Ah, d'accord.
intéressant d'ailleurs. Ça nous
D'accord.
fait déjà rentrer
Moi,
ton
j'ai compris
erreur,
Jan van Dyck.
nous fait rentrer dans le vif du sujet.
J'ai pas
On
compris.
aura le temps de s'en
Vous êtes le
expliquer.
frère de Luc?
Oui.
Ah, ben écoutez, c'est encore mieux donc. Donc, Peter Perceval. Moi, je me posais la question, comment se prononce Van Dyck? Parce que jamais su exactement. Donc, Peter Perceval, Luc Perceval, donc, qui ont travaillé ensemble sur Andromaque. Et Luc Perceval, qui a fait un certain nombre de spectacles très importants sur des textes qu'aujourd'hui on appelle, avec un ton plus ou moins condescendant, des textes patrimoniaux. La question est de voir comment on traite ces textes. Donc, Ludovic Lagarde, qui est présent dans le festival avec un travail extrêmement significatif autour du texte et des écritures contemporaines, donc en collaboration avec Cadio. Frédéric Fisbach, qui met en scène et qui propose l'illusion comique, et François Bon, écrivain, dramaturge et romancier, qui. Pardon?
Il a droit aux trois, lui.
Qui présente avec Charlie Torsman Déou. Donc, je te laisse dire deux mots sur l'intitulé.
Je vais peut-être dire deux mots sur l'intitulé, puis peut-être je fais le pari que tout le monde n'était pas là quand est-ce lundi dernier pour la première rencontre, le premier temps de travail que nous avons intitulé Regard critique au pluriel. Et donc je me dis que c'est peut-être intéressant de vous en dire deux mots, de faire un petit, pas résumé, mais prélever quelques formules clés qui avaient été énoncées à cette occasion, d'autant plus que le thème de la séance précédente communique en fait assez étroitement avec celui-ci, hein, puisqu'il s'agissait d'une formule comme ça qu'on a forgée, les auteurs de la scène. Et cette formule ne voulant évidemment pas dire les écrivains qui écrivent pour le théâtre. C'était dans notre esprit l'idée que ce qui est auteur au théâtre aujourd'hui, largement sur beaucoup de scènes, et en particulier sur les scènes du festival, ce qui est auteur aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'écrivain de théâtre. Hein. Et il se fait que les trois invités que nous avions étaient effectivement auteurs du travail. Je parle de Yann Lowers, Yann Fabre et la chorégraphe Quentin Samacras. Ils sont véritablement auteurs d'un travail d'espace, textuel, musical, chorégraphique, mais ils ne sont pas écrivains. Hein. Ils ne sont pas écrivains, ils ne sont pas metteurs en scène. Et on a vu très clairement se dessiner l'idée que, c'est pas qu'ils étaient d'accord avec notre formule, mais qu'en effet, ce dont ils parlaient, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils pratiquaient dans leur exercice de la scène, ce n'était pas un travail de mise en scène d'un texte. Hein. On pourrait d'ailleurs faire une petite critique, une réserve quant aux invitations que nous avions faites, c'est qu'effectivement, il y avait trois représentants de cette qui rentraient dans cette formulation-là, des auteurs de la scène, et il n'y avait pas en face d'eux des gens qui auraient fait un autre type de travail, hein, ce qui est le cas aujourd'hui. Un travail, je dirais, plus traditionnel, en tout cas qui hérite d'une tradition, qui s'appelle mettre en scène un texte, qu'il s'agisse d'un texte du répertoire patrimonial, comme disait Georges, ou d'un répertoire plus contemporain. Mais c'est vrai que ces trois artistes, et j'emploie à dessein le mot artiste, se disaient ne pas être metteurs en scène. Hein, c'est-à-dire, je reprends là un mot de Claude Régis, ne pas se considérer comme des passeurs de textes. Yann Lowers a eu une formule assez juste, il dit « Oui, il m'est arrivé de monter des textes du répertoire, il a monté Shakespeare, il a monté énormément de textes de Shakespeare, et il disait « Mais dans ce cas-là, je ne suis pas artiste, ou je suis un 50% artiste pour le reste, mais pas dans le geste de la mise en scène. Le geste de la mise en scène n'est pas la traduction de mon univers. Si on force un peu, on peut dire qu'il allait jusque-là. Autrement dit, l'univers de l'artiste ne passe pas par la mise en scène. » C'était en tout cas vers ce type de conclusion qu'il allait, et Yann Fabre n'était pas très loin d'aller dans ce sens. Une autre chose qu'on peut reformuler là pour en parler avec nos invités d'aujourd'hui, c'est que ce travail d'auteur de la scène implique un métissage, une hybridation des formes et des disciplines. La musique, la danse, les arts plastiques, les arts visuels, qu'il s'agisse des arts plastiques en tant que plastique ou visuels en tant qu'audiovisuels par la médiation de l'écran, toutes ces composantes sont conviées sur le plateau, hein, et Yann Fabre utilise un terme pour décrire cette invitation des autres formes vers la scène du théâtre, il appelle ça la conciliance. Hein. L'idée que l'espace du scénique, l'espace du théâtre, c'est un espace qui concilie, qui permet de convier et de faire dialoguer, de faire se confronter différents vocabulaires, hein, de la scène. C'est un mot qui a été employé aussi plusieurs fois, le mot de code. Hein. Quels sont les codes de la scène ? Est-ce que les codes de la scène sont seulement textuels ? Est-ce que c'est le texte qui guide la grammaire de la scène ? Ou est-ce qu'il y a d'autres types de codes ? Voilà, je m'en tiens à cette toute petite reformulation, parce que je crois qu'elle permet d'éclairer le débat d'aujourd'hui. Je précise par rapport à l'intitulé que Georges a dit, il n'est pas formulable oralement, puisqu'il faut vraiment le lire. Hein. Se servir du texte suppose de bien voir qu'il y a une parenthèse avant le « se » et qui se ferme après le « e » de « se ». Donc, se servir du texte, qui peut s'entendre en disant que, au fond, l'artiste se sert du texte comme d'un matériau, hein, comme faire cette idée de l'auteur de la scène dont je parle à l'instant, ou qui peut aussi s'entendre, en biffant le « se », servir du texte, servir le texte, dans un geste plus conventionnel, où le texte est au fond le pivot, le levier, l'origine, la matrice du travail scénique. Voilà, il y a ces deux grands axes, et il me semble que l'idée de vous avoir invité ensemble correspond à une volonté de notre part de mettre à l'épreuve cette hypothèse, peut-être de l'invalider ou de la transformer, et en tout cas de vérifier qu'aujourd'hui, le travail avec le texte est complexe, multiple, et on entend dire de ci, de là dans le festival, que ce festival quitte le champ du pur théâtre pour aller vers autre chose. C'est une parole qu'on entend comme ça. Je ne la développerai pas parce que ce n'est pas mon hypothèse, c'est une opinion qu'on entend dans le festival. Mais la pureté, ça fait je m'en méfie aussi un peu tout de suite, mais ça s'entend, on entend dire ça.
Mais donc peut-être une première question, c'est quelle est votre relation au texte sur lequel vous travaillez, c'est que d'un côté, donc... Vous travaillez sur des textes classiques ou des textes contemporains, donc ce qui est le cas de Luc, ou des textes qui sont complètement non théâtraux, où vous fabriquez du texte, ce qui est le cas de. Donc je pense que de François Bon, ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir pourquoi, à un moment donné, vous avez choisi ces textes que vous présentez dans le festival, à quel besoin ça correspond, et si. S'il vous semble que par rapport à une attitude propre aux années 80, 90, qui était le respect, la réhabilitation du texte, est-ce qu'il y a des mutations particulières ? C'est-à-dire qu'on a observé que, au fond, aujourd'hui, on récupère la liberté à l'égard du texte propre aux années 70-80, liberté contre laquelle beaucoup de metteurs en scène se sont insurgés pour défendre l'autorité du texte en tant que tel. Je crois que le débat aujourd'hui est intéressant dans la mesure où il est peut-être le symptôme d'une entrée sur un autre cycle. À l'égard du texte, ni le refus du texte que pratiquent certains auteurs de la scène, ni le respect polémique du texte qui a été pratiqué en France par Antoine Vitez, par Jean-Pierre Vincent, en Allemagne par Stein. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans une étape nouvelle, autre, pour ce qui est du rapport au texte. Donc, il y a ici, on peut commencer pas forcément, c'est peut-être mieux de partir du présent vers le passé, pas forcément de Corneille vers le présent, mais peut-être du présent vers le passé. C'est quel est le statut du texte, François Bon, dans le théâtre pour vous aujourd'hui? En plus, ce que vous proposez comme texte, ce sont des textes qui ont, en l'occurrence ici, qui ont un rapport assez précis avec un phénomène de société. Et vous parliez de textes de reconnaissance.
Ah, je n'étais pas préparé à parler tout de suite.
Mais c'est mieux comme ça.
C'est vrai que ça fait... Bon, avec Bruno, on a toujours des polémiques, on n'est jamais d'accord, et c'est pour ça qu'on est copains. Mais à Georges Banu, à qui
j'ai dit que c'était mieux ma présentation que ce que j'ai écrit dans Mouvement, qui était un peu le préambule de ces débats. Vas-y.
Que ce soit Georges Banu, à qui on doit tant, à maître, qui nous dit écrivain, romancier, dramaturge, c'est vrai que ce vocabulaire-là est complètement volatilisé, évidemment, et que l'approche-là que... ce que travaille Bruno depuis très longtemps, à partir de Pi, de Gabili, où dans cet éditorial de Mouvement, là, justement, il développait l'idée que le théâtre produit sa propre matière à partir de la scène. Et, c'est un texte de Bruno qui m'a mis très mal à l'aise, parce qu'à la limite, précisément, dans cette invention de code, le texte n'était plus là que dans se servir de quelque chose. Et évidemment, moi, je ne trouvais plus du tout ma place. Et c'est pour ça, du coup, qu'il m'a laissé trois messages. Je n'ai pas voulu lui répondre. J'étais en colère contre lui. Bon, peu importe. L'intitulé de ce débat est justement une provoque de Bruno. Enfin, je ne pense pas qu'elle soit de Georges.
Elle est partagée, oui.
Elle est partagée, bon. Mais le mot « servir », pour moi, est un mot parfaitement haïssable. Servir, non. Personne n'a jamais servi ni quoi que ce soit, ni... enfin, celui qui viendrait à l'art pour servir quelque chose, enfin bon, on est dans des catégories d'impératifs, de nécessité, d'urgence, tout ce qu'on veut, mais pas comme ça d'une transitivité, qu'elle soit de quelque ordre qu'elle soit. Et évidemment, pour moi, la question ne se pose pas, puisque de toute façon, le texte, j'ai que ça, j'ai que la langue, je travaille la langue. Et je la travaille non plus sans autre transitivité ni impératif. C'est pas une langue pour servir, c'est pour moi, c'est toujours cette vieille question en tête du chapitre de la tragédie d'Aristote, qu'est-ce qui pousse les hommes à se représenter eux-mêmes. Et ce vocabulaire-là, bon, il n'y a pas besoin d'en sortir. Effectivement, pour moi, l'univers, pendant très longtemps, j'avais des gens me proposaient d'écrire pour le théâtre, et ayant rencontré Coltès tôt et ayant une amitié forte avec Valère Novarina, je me disais non, moi je suis pas chez eux, et ça sert à rien d'aller mettre quelque chose alors que le théâtre, mais je l'ai rencontré que très tard dans ma vie et c'est pas mon domaine. Mon domaine à moi, c'est l'imaginaire de la fiction, c'est Borges, c'est Edgar Poe, c'est Jules Verne, c'est par là, c'est pas ailleurs. Et puis, à travailler dans et avec le théâtre, c'est-à-dire à m'insérer comme auteur dans un théâtre, c'est-à-dire à amener dans un centre dramatique, en l'occurrence celui de Nancy, des lectures, des auteurs, c'est-à-dire à chercher à travailler comment la littérature était déplacée ou travaillée par le geste, par l'insertion du théâtre dans la ville, c'est vrai que j'ai été mis face à une espèce de trou, c'est-à-dire que la langue, quand on la donne évidemment pour l'acteur qu'on a devant soi, c'est plus la même. La relation au temps et à l'espace n'est pas la même. Des paramètres qui interviennent dans la littérature de façon séparée doivent se combiner de façon simultanée. Et c'est vrai qu'il y a un vertige, une fascination tout à fait propre. Et donc j'utilise, quand je me présente en tant... je pense que pour moi il y a un paradoxe, c'est-à-dire que le temps de l'écriture théâtrale, il est autonome, il est radical, il est spécifique, et quand on commence les répétitions, malheureusement, le texte, il faut bien que les acteurs l'apprennent, et le texte est fini. Et donc il y a un temps de l'écriture qui est séparé du temps collectif, qui fait qu'il y a un exercice autonome de l'écriture, qui fait qu'on reste auteur malgré tout. Et le paradoxe, c'est tout ce qu'a développé Bruno, c'est-à-dire que le texte, quand il apparaît, ce qui dit, évidemment, c'est parce que aujourd'hui tous, et je pense que pour dans la relation Olivier-Ludovic, c'est le même rapport, ou la présence d'Eugène Durif aux côtés de Frédéric aussi, on s'inscrit dans un collectif, et l'écriture de théâtre, évidemment, pour moi, n'a pas d'autre autonomie que celle que ce passage à l'effectivité par le collectif. Comme dit Coltès, que je retravaille parce que la semaine prochaine, Coltès est mort il y a 15 ans, et samedi prochain, je vais parler pendant une heure de Coltès. Il dit dans le théâtre, il y a le texte, les acteurs et les techniciens. Donc forcément, l'auteur, il est un des techniciens parmi les autres, et ça me convient tout à fait. Mais c'est un paradoxe.
Mais c'est vrai que le terme « se servir du texte peut poser problème, mais d'une certaine manière, il s'agit, dans l'acception de se servir du texte, de servir un texte dans la mesure où il s'agit de le rendre présent.
Faire servir des pommes de terre.
Mais c'est justement, vous aviez raison, c'est plutôt Bruno qui avait l'idée qu'on peut servir le texte comme un café.
C'est une petite précision sémantique, c'est se servir du texte. Il y a une expression de Degabili qui m'était venue à l'esprit quand on l'a choisi, je pourrais même l'avoir dit, mais elle m'avait traversé l'esprit, c'est servant de plateau. Gabili disait de l'acteur qu'il est servant de plateau, reprenant là une fonction rituelle, évidemment désacralisée, mais... Donc c'est tout le contraire de l'instrumentalisation dont parlait François. Servant de plateau, c'est bien au contraire penser qu'il y a quelque chose, alors texte, pas texte, fait avec du texte, composé par, avec, peu importe, mais il y a, je crois, dans notre débat, là, une volonté de penser que les uns comme les autres sont d'abord des servants, quoi. Il y a quelque chose qu'on sert avec un grand S, ou je sais pas.
La nuance n'est pas...
Il était bon de la rappeler, oui.
Donc, dans le festival, nous avons l'occasion de voir très vite, demain, je pense, Andromaque dans la mise en scène de Luc Perceval. Donc, son frère est ici, il a travaillé sur ce texte. Moi, je voudrais dire deux mots un peu pour vous informer. Luc Perceval a fait un spectacle que malheureusement je n'ai pas vu, mais quelqu'un me l'a raconté très longtemps, en m'expliquant qu'au fond, c'est la guerre de Rose, donc ce sont les pièces historiques de Shakespeare. Il y avait un travail extrêmement puissant sur le texte, mais pas dans le sens de l'interprétation du texte, entre guillemets, mais, disons, un travail sur la langue du texte pour que ce texte puisse parler au monde contemporain. Donc, la question que je voudrais vous poser à tous les deux, ce travail sur le texte, qui n'est pas un travail d'interprétation, mais de montage, de réécriture dans une autre langue, quelles sont ses bases théoriques, quelles sont ses motivations et comment vous opérez Je me permets de te poser aussi la question, parce que l'histoire de Shakespeare était tellement intéressante, c'est-à-dire que dans la mesure où, à travers le spectacle, on assistait au passage d'un niveau de langue à un autre niveau de langue.
D'abord, je dois peut-être expliquer que mon travail de théâtre est très fort concentré parce que moi-même, au début, j'étais acteur. Et c'est très fort concentré sur l'idée que l'acteur est le chaman, il est le centre du spectacle. Et c'est à cause de ça qu'on a élaboré une manière de travailler sur les textes et pendant les répétitions pour donner de souveraineté aux acteurs. Ça veut dire très plate, quand il y a une phrase avec laquelle l'acteur ne se peut pas identifier, on le change. Et j'ai vécu pendant des années que je travaille maintenant en Flandre et aussi en Allemagne, que c'est une discussion qui est très fort colorée par la culture. Si on peut se servir du texte. Par exemple, en Flandre, parce que c'est une culture très jeune, actuellement, les premières universités flamandes se sont fondées, je pense, après la Première Guerre mondiale. Le théâtre flamand n'est que 100 ans maintenant, n'a que 100 ans. Alors, c'est une culture très jeune. Et jusqu'à il y a 20 ans, le théâtre était en train d'imiter des modèles, des styles, des formes de théâtre qui étaient étrangers. Ce qui nous posait pour le problème que le public, et aussi les acteurs, et aussi les metteurs en scène, avaient une énorme distance au théâtre. Et dès ce moment, il y a 20 ans, je pense, un mouvement a commencé à écrire ses propres textes pour chercher, disons, avec un mot gros, l'identité théâtrale flamande. Maintenant, en Flandre, c'est plus un thème qu'on adapte Shakespeare, par exemple. En Allemagne, c'est un grand thème. C'est « not done », on ne fait pas ça. Mais aussi là, il y a quelque chose de très rare, très drôle aussi. Parce que, par exemple, quand on fait ça avec des pièces non connues, ou moins connues, par exemple les Guerres des Roses de Shakespeare, j'ai travaillé avec Tom Lanois sur le texte, actuellement on a pris Shakespeare, mais on a essayé de faire une dramaturgie qui est, à mon avis, plus contemporaine, parce que, par exemple, Shakespeare explique beaucoup dans ses pièces, presque chaque acte, il fait un résumé de ce qui est passé, ce qui va passer. Et maintenant, on est confronté à un public qui, on peut dire, qui est traîné par des images et d'une dramaturgie plus associative, je veux dire. Alors, ça nous a permis de raconter cette histoire plus directe, plus économisée. Mais la chose qui était très frappante était que, parce que presque personne connaît ces pièces, tout le monde dit « Ah, c'est un Shakespeare merveilleux ». Ça nous a même emporté un prix en Allemagne comme un des Shakespeare le plus important. Après, j'ai monté Othello en Allemagne, j'ai adapté le texte avec un auteur turc, et quand on lit le texte d'Othello, il y a beaucoup de patois différents dans le texte. Il y a aussi beaucoup de discussions si Shakespeare vraiment existait. On peut aussi dire que c'était peut-être c'était des différents auteurs et tout ça. Aussi Shakespeare était acteur qui prenait beaucoup de styles et de formes. On a essayé de traduire ces patois dans une langue allemande aujourd'hui. Et la presse et le public étaient choqués parce que ce n'était plus Othello, ils disaient. Alors, ce qui joue là-bas un grand rôle, c'est la perception du texte. Il y a des gens, et surtout des gens qui vont au théâtre, qui ont souvent une idée, bon, ce soir on va voir Oncle Vanya de Tchekhov et ça doit être comme ça. Et c'est comme des monstres sacrés. L'avantage et peut-être aussi le désavantage de venir de Flandre, c'est que nous n'avons pas ces monstres sacrés. Nous n'avons pas Schiller, nous n'avons pas von Kleist, nous n'avons pas Racine, Shakespeare, tout ça. Alors nous avons eu la possibilité d'inventer nos propres textes avec les classiques. Et je suis toujours maintenant surpris, quand je viens à l'étranger, que ça c'est encore un thème de discussion, de faire des adaptations, parce qu'actuellement, si on voit l'histoire du théâtre, on a toujours fait ça. On a toujours réraconté des anciens textes, on a toujours changé des textes, des modèles anciens pour un public contemporain. Mais ça, c'est un peu le cadre dont on travaille.
Mais, Frédéric, tu as procédé un peu à un travail, pas exactement dans le même esprit, mais en même temps, ce jeu sur les distances temporelles est au cœur même de... Et Frédéric Fischbach a monté l'illusion comique, où justement, il y a ce rapport à la langue.
Les niveaux de langue, avec la question des différents niveaux de langue.
Et c'est presque un objet de la mise en scène.
Oui, oui, mais bon, la grande différence, c'est que je travaille sur un texte du passé, mais français. Donc, j'ai pas aussi non plus l'appui de la traduction. Parce que entre traduction et adaptation, bon, on peut jouer sur ça beaucoup. Et là, bon. Après, moi, je travaillais sur ce texte. J'écoutais Luc Perceval et je vois bien dans quoi on est, nous, dans cette espèce de... toujours tiraillé entre le respect du texte, mais qu'est-ce que c'est que le respect du texte, et en même temps le côté est-ce qu'il faut pousser le texte devant, ou au contraire il faut dégager les lignes de force d'une proposition dramaturgique et d'essayer de la traduire au plateau pour aujourd'hui. Bon, on est un peu c'est vrai que là, en l'occurrence, moi j'ai pas cherché à être efficace du tout. Avec cette proposition, j'ai simplement essayé de enfin, bizarrement, alors vous parlez de la langue et tout ça, on a fait un travail sur la langue, évidemment, parce que c'est passionnant, et parce que c'est surtout on a travaillé sur les écarts, en fait, d'essayer de montrer que moi, ce qui m'intéressait dans cette pièce, c'est tous les écarts qu'elle permet de, c'est toutes les distances qui viennent se glisser entre elle et nous, c'est tout ce jeu des distances et des rapports et des écarts qui viennent se nicher à l'intérieur de la représentation. C'est ce jeu, tout à l'heure Luc Perceval disait que l'acteur est une sorte de chaman comme ça, je crois il disait que c'est le centre de la, je sais plus, du théâtre ou de la représentation de théâtre. Moi, je crois qu'il y a aussi le spectateur, et que c'est vraiment dans cette relation, évidemment, hein, mais bon, c'est dans cette relation, et que c'est cette relation qui fait exister le théâtre. Et donc, c'était essayer de se saisir de ce texte et d'essayer de voir en quoi elle faisait encore aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui encore elle faisait vivre une relation, elle excitait, je dirais, cet espace entre l'acteur et le spectateur. Voilà. Est-ce que cette distance-là pouvait encore s'animer, et voilà. Donc c'était plus ça l'objet de notre travail. Juste, je voudrais rajouter une petite chose, mais qui est peut-être un peu évidente, mais je préfère la dire. J'ai pas du tout la même attitude quand je travaille sur un texte d'un auteur d'aujourd'hui et quand je travaille sur un texte du répertoire classique. C'est deux attitudes différentes. Et peut-être, étrangement, je vais avoir plus de... c'est pas plus d'attention, parce que j'ai pas l'impression de manquer d'attention à Corneille, mais en tout cas au texte de Corneille, mais je vais essayer d'être
Mais sans doute de faire plus attention à un texte d'un auteur vivant, parce qu'il se joue là quelque chose de crucial aussi vis-à-vis de cet auteur-là et de son écriture, alors que vis-à-vis d'un auteur du passé, je me sens un tout petit peu plus délié et tranquille. Hein. Et je voudrais juste rajouter une petite chose par rapport à la... Quand on travaille sur un texte classique, ou dit classique, ou en tout cas du passé, il y a toujours cette question de... là aussi, ce que disait Guy Perceval à l'instant, il y a une attente qui serait que ce texte classique s'accompagnerait d'un mode de représentation. Or, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on a une mémoire de spectateur et que les mises en scène de certains textes viennent s'additionner comme ça et qu'il y aurait une espèce de pseudo-tradition de la représentation de ces textes-là, mais en même temps, ça n'a rien à voir avec le texte. Ça appartient à l'histoire du théâtre, c'est formidable, mais ça n'est que ça. Et je crois que c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec l'illusion, c'est simplement de décoller le texte lui-même de l'histoire de ses représentations. Voilà.
Ludovic Lagarde, vous travaillez avec un auteur contemporain, vous travaillez vraiment sur du texte, mais du texte a priori non pas écrit en direction de la scène. Donc, d'où vient cette suspicion à l'égard du texte, suspicion à l'égard du texte dramatique élaboré, et en même temps, sur quoi est fondée cette relation privilégiée avec un auteur dont vous êtes presque indissociable.
Oui. Il n'y a aucune suspicion. D'ailleurs, quand je ne travaille pas avec Olivier Cadio, je monte des pièces de théâtre, au sens classique du terme. Donc il n'y a aucune suspicion. Il y a simplement une particularité qui est le travail que nous menons ensemble avec Olivier depuis plusieurs années. Je veux juste revenir pour en parler sur ce que disait Bruno Taquels tout à l'heure, parce que ça m'intéresse beaucoup, sur cette distinction entre artiste, metteur en scène, pour parler de notre travail. Parce qu'au fond, j'ai l'impression justement de me situer moi à la croisée des chemins de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction pour le coup. C'est-à-dire qu'à la fois moi, je revendique absolument mon statut de metteur en scène, le rôle du metteur en scène, le rôle de la mise en scène. Et en même temps, avec la particularité qui nous lie avec Olivier, c'est-à-dire qu'Olivier, au fond, écrit des livres que je passe à la scène. Je ne suis pas seulement metteur en scène au sens classique du terme, si on distingue les deux choses, puisque je fais ce travail de purement scénique, c'est-à-dire je transpose les livres à la scène. Donc je fais un travail d'adaptation, soit en collaboration avec les acteurs, avec les musiciens, avec les techniciens, avec Olivier Cadio lui-même, soit tout seul. Donc au fond, l'acte de passage à la scène, c'est moi qui l'assume. C'est-à-dire s'il y a pièce de théâtre, c'est moi qui assume ce passage-là. Donc, alors, et qu'est-ce que je suis? Je suis un metteur en scène, je suis un artiste, je suis un metteur en scène artiste, je suis quoi? Je suis un auteur, comment on dit ça? On dit rien. On dit on est un metteur en scène, non? Est-ce que ça comprend pas tout ça? Est-ce qu'historiquement, c'est pas ça un metteur en scène? Est-ce qu'il faut absolument distinguer les choses? J'en sais rien, c'est une question que je pose. Alors effectivement, pour revenir au travail, ça m'amusait d'entendre Luc parler des acteurs et de l'idée de changer des mots, parce que c'est exactement ce qu'on fait, nous, avec Cadio. C'est-à-dire, justement, Olivier, parce qu'il y a le livre, d'un côté, et la scène de l'autre, il n'a pas de lien, comment dire, entre guillemets, sacré au texte de théâtre. Il a un lien sacré, probablement, au livre, mais pas à la pièce. Donc, au fond, il est d'une légèreté et d'une souplesse avec nous extraordinaire. Et qui va me laisser intervertir des chapitres, couper dans son livre allègrement, lui faire des propositions incongrues par rapport à l'écriture, c'est-à-dire il me laisse vraiment changer de support. Parce qu'il y a un support livre, hein, c'est de la littérature assez... Je sais pas, c'est pas ses règles, mais elle a son mode de lisibilité, qui est la lecture, le livre, et puis en changeant de support, en changeant de média, on passe au théâtre, et là il y a d'autres règles qui opèrent. Donc il faut pouvoir changer l'établissement du texte. Et il le laisse faire complètement. Et avec les acteurs, il est aussi d'une extrême attention et extrême légèreté. Il dit, il va voir lui-même les acteurs en disant, si tu n'arrives pas à dire ça, ne le dis pas, on pourrait trouver autre chose. Et il change. Et si tu n'as pas bien fait un truc, si tu n'es pas content, recommence-le. Dis deux fois, alors Je vous passe les détails, mais c'est en permanence dans ce souci de légèreté. Donc il n'y a aucune sacralisation du texte de théâtre avec lui. Voilà, que vous dire d'autre, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est intéressant parce qu'au fond, c'est un peut-être juste un petit historique de ça, puisqu'au fond, moi, j'ai commencé la mise en scène avec des petites pièces de Beckett, des solos, cette fois, That Time, qui sont parmi les pièces, au fond, les plus, entre guillemets, littéraires de Beckett. C'est les textes des années 70, très, très littéraires. Mais simplement, Beckett assume complètement la question du théâtre et opère le déplacement lui-même en créant des didascalies, en intégrant la machine de théâtre et en même temps en donnant le pur jus de son travail littéraire, sans aucun compromis, enfin, sans aucune différence. Et moi, je commence par ça. Et c'est à partir de là que la collaboration avec Olivier Cadio démarre. Et donc, la première pièce qu'il me donne, puisque je lui passe commande une première pièce, c'est Sœurs et Frères, c'est une pièce dialoguée. Pour le coup, vraiment directement passé à la scène, enfin. Et puis après, lui n'est pas très content du résultat, au fond, et donc là, on invente cette méthode ensemble, où il décide de d'abord passer par le livre. Mais en même temps, c'est une drôle d'opération. C'est-à-dire que, par exemple, le colonel des Oives, il me propose de d'écrire ce livre et de nous le donner pour le théâtre. Et en même temps, pendant qu'il écrit le colonel des Oives, moi je lis des débuts de manuscrits, je lui propose que ce soit un monologue. Parce qu'il me semble que c'est la seule solution pour le passer à la scène. Alors il dit d'accord, on va faire un monologue. Et puis ensuite je lis un autre état du manuscrit et je lui dis mais alors à ce moment ça serait bien que ce soit Laurent Poitrenaud. Parce qu'on a déjà travaillé ensemble, parce qu'il connaît. Et donc il écrit le colonel des Oives en sachant que ça va être un roman, puisque c'est un roman paru chez Paul, que ça va être une pièce de théâtre, que ça va être un monologue de théâtre, que ça va être un monologue de théâtre joué par Laurent Poitrenaud et mis en scène par moi. Et lui, parce qu'il vient à un endroit aussi de la musique, parce qu'il a travaillé avec Pascal Dussapin. Ils ont fait Roméo et Juliette ensemble, il a fait des choses. Il est lié un peu au théâtre musical à l'époque. Au fond, il me propose de travailler avec Gilles Grand, un électroacousticien. Donc il amène, au fond, sa culture à lui et dans l'histoire. Et puis on fait le colonel des Oives. Et ensuite, on recommence les opérations les unes après les autres de cette même manière, avec toujours l'acteur au centre. Parce que retour définitif et durable de l'acteur, on recommence cette opération. Et moi, je me rends compte à un moment donné qu'on est bloqué dans le processus et je me demande pourquoi. Donc on se fait une réunion à Rennes ensemble, un déjeuner. Et puis on se dit, mais finalement, pourquoi ça bloque? Parce qu'il n'y a pas les acteurs. Et donc avant qu'il ait fini Retour définitif, j'arrive pas à le dire, et Durable de l'être aimé, en fait, on fait le choix de d'abord choisir un trio d'acteurs, Laurent Poitrenaud, Valérie Dashwood, Philippe Duquesne. Et Olivier finit d'écrire son livre avec une sorte de dédicace, enfin, en sachant qu'il... Et ça, c'est toujours pivot. Et puis même opération sur Fairy Queen. Avec des variantes à l'intérieur, c'est-à-dire que Retour définitif et durable de l'être aimé, c'est un livre beaucoup plus complexe, donc on adopte des méthodes beaucoup plus expérimentales, on travaille pendant plus de 3 mois, tous ensemble, la table, la scène, la table, la scène, la table, la scène, pour au fond dresser le protocole de théâtre à côté de celui du livre. Et puis Fairy Queen se passe de manière plus rapide, parce que bizarrement, et c'est là qu'il y a servir, se servir, qui sert qui, comment ça marche, bizarrement, le travail qu'Olivier, évidemment, fait évoluer mon rapport à la scène, parce qu'il faut inventer encore une fois, des protocoles de théâtre pour faire entendre cette écriture à la scène, donc ça fait évoluer mon travail considérablement. Et puis en retour, bizarrement, Fairy Queen est plus que jamais une pièce de théâtre dans un livre. Donc au fond, l'adapter est beaucoup plus facile que tout le reste de son œuvre. Donc c'est presque une pièce de théâtre. Alors que voilà. Donc on avance comme ça, en crabe, sans théoriser, sans présupposer esthétique. Et à chaque fois, on invente des méthodologies et ça s'échange. Voilà.
Et pour revenir comme ça, parce qu'en même temps, c'est un certain type de travail pas similaire que vous avez fait pour Andromaque, c'est-à-dire que Andromaque aussi, c'est un travail qui est lié à l'équipe, qui est lié aussi à la mise en cause d'un mode de représentation qui existe de Racine. Donc peut-être si, Peter, si vous voulez.
Je veux dire que la mise en question du mode de représentation n'était pas le premier souci quand on a adapté Andromaque. D'abord, il y a le souci de traduction. On se trouve devant un texte magnifique, écrit en alexandrin, mais intraduisable en flamand. Donc, première question est comment qu'on va passer tout ce cas-là en sentiment, tout ce cas-là en émotion et tout ce cas-là en stratégie politique qu'il y a dans ce texte, comment qu'on va faire transmettre ça à un public flamand contemporain qui n'en sait que dalle. Donc, il faudrait les rééduquer complètement. Et c'est ce qu'on ne choisit pas de faire. Donc, c'est le premier souci. Le deuxième truc, c'est que j'ai travaillé deux fois avec Luc maintenant, une fois sur King Lear de Shakespeare et une fois sur Andromaque maintenant. C'est que je sais que quand je lui apporte un texte, lui de sa part ajoute son imagination visuelle là-dessus. Moi je suis un homme de mots, un homme de lettres, j'écris. Et il est vrai que, en écrivant, on a tendance d'oublier qu'il y a des images que les gens peuvent voir pour eux-mêmes, peuvent décider ce qu'ils veulent voir pour eux-mêmes. Et c'est ça le métier de metteur en scène là-dedans, je crois. Et c'est pourquoi nous écrivons ensemble aussi, parce que, à certains moments dans l'écriture, le metteur en scène peut dire à l'écrivain, écoutez, ça et ça, il ne faut pas le dire, il faut le montrer. Et c'est une relation très fructueuse parce que ça donne des images vraiment très fortes à la fin. Je me souviens quand on a travaillé Andromaque, une des premières fois que je l'avais lu, je disais à Luc, bon, moi, je vois ça dans une situation, par exemple, si on traduisait cette histoire contemporainement, imaginons que la femme d'Arafat soit otage, soit tenue otage par le premier ministre d'Israël et qui lui demande de se marier avec elle. Hein? Et c'était complètement absurde, bien sûr, mais bon, ça nous a remis sur la piste. Imaginons cette impossible intrigue entre ces gens-là, parce que finalement, qu'est-ce qu'on demande à cette femme? Quelque chose d'absolument impossible. Hein? Donc, la fortification de ce sentiment et l'actualisation de ce sentiment nous a mis sur la voie, essayant de vraiment aller à l'extrémité du huis clos dans cette situation et de mettre une sobriété énorme à travers tout ce texte. Et c'est comme ça que ça prend forme, comme les autres participants ont dit, hein, par étapes, et ça rajoute, et ça rajoute, et ça devient une espèce de ratatouille à la fin. Voilà.
Peut-être, je dois encore ajouter... comme dit Frédéric, ça ne veut pas dire qu'on a un clé pour chaque pièce et pour chaque pièce, on prend ce même clé. Parce que chaque pièce, chaque histoire a sa dimension. Pour donner des exemples, par exemple, La guerre des roses, c'était un projet qui durait 12 heures et qui traversait. Commençant avec Richard II, dans notre fantaisie, dans une société archaïque, et qui finissait aujourd'hui avec Richard III. Alors, on a essayé de faire un voyage à travers du temps, de l'humanité, on peut dire. Et car, parce que nous avons un théâtre qui n'est pas subventionné comme les théâtres allemands. Il faut trouver des solutions comment donner aux spectateurs cette sensation de ce voyage. Et tout de suite, nous avons dit, bon, la seule possibilité qui est moins chère, c'est la langue. Parce qu'on peut faire un voyage... pas la langue. Alors, on a élaboré, avec ces pièces de Shakespeare, qui sont actuellement 8 pièces, comme Richard II, Henri IV, Henri V, Henri VI, Edward IV, le 4, Richard III, et nous avons pris une langue qui est avec chaque pièce a changé et qui a donné une atmosphère du société, une atmosphère historique aussi. Pourquoi ? Parce que, par notre avis, et quand je dis notre avis, c'était Tom Lannoy et moi, on a travaillé sur le texte pendant 2 ans, c'était aussi le but de Shakespeare, de raconter une grande histoire de l'humanité, mais aussi une histoire de l'égoïsme, et une histoire du société aussi. Et la langue était un véhicule parfait pour faire ce voyage. À l'autre côté, j'ai un autre exemple. L'année passée, on a joué Oncle Vania de Tchekhov, et là, on a toujours, pas seulement avec Tchekhov, aussi avec Shakespeare, mais surtout avec Tchekhov, on est très fort confronté avec le poids du traduction. Il y a beaucoup de traductions qui sont très littérales, littéraires, mais qui ne sont plus, après la traduction, des textes-jeux. Et surtout dans le cas de Tchekhov, tout le monde dit toujours « Ah, Tchekhov, ce sont vraiment des gens sur scène et tout ça », mais quand on lit, le texte en flamand, ce sont des gens très artificiels. Ce n'est plus un texte, ce n'est plus des dialogues quand des gens, disons, banals, disent à la campagne. Alors, on a pris ces traductions. J'ai demandé aux acteurs « Apprends le texte ». Dès le début, la première répétition, tout le monde connaissait son texte. Et dès ce moment, j'ai essayé de travailler comme aussi Brecht l'a fait. J'ai demandé aux acteurs, maintenant tu le dis dans tes propres mots, pour donner au caractère une très grande authenticité. Et tout de suite, quand je demande ça en Flandre, tout le monde commence à parler dialecte. Parce que nous n'avons pas ce Bühne Deutsch ou le français du Seine ou quelque chose de Oxford English, ça n'existe pas en Flandre, il n'y a que des dialectes alors. Et ce qui était bien était que les personnages devenaient tout de suite des personnages vrais, des gens vrais. Mais à l'autre côté, il y avait des puristes tchékoviennes qui disaient mais ce ne sont plus des caractères tchékoviennes, ils doivent être nobles et mélancoliques et tout ça. Mais à l'autre côté, ça a donné à la performance, pour le public, un très grand aspect reconnaissable, très flamande. Tout de suite, Tchekhov est devenu un auteur flamande. Et ça, c'est quelque chose de très drôle parce que ça, c'est aussi une illustration comment on travaille actuellement chez nous. C'est quand on n'est plus concentré sur une forme qui n'a rien à faire avec les gens sur scène. On est toujours en train de chercher comment établir une forme. Et ça ne veut pas dire une forme naturaliste, mais comment établir une forme qui est lié avec l'authenticité, la vérité, je voulais dire, actuellement, des gens qui sont sur scène. Et alors, ce sont deux exemples d'une manière de travailler.
François ? Oui, je voulais... Mais Tchekhov en flamand, du coup, il faudrait inventer un autre nom. Non, je vais revenir à ce que disait Ludovic Lagarde, qui me semble peut-être quelque chose d'un petit peu neuf quand même dans sa relation, ce qu'il disait de sa relation à Olivier Cadio, d'une double légitimité, c'est-à-dire qu'il y a la légitimité du livre d'Olivier et la légitimité parfaitement théâtrale de leur travail, en particulier le triangle acteur avec Laurent Poitrenaud, l'auteur et le metteur en scène. Et c'est peut-être là où pour moi ça renvoie à cette question de la sacralité du texte que Bruno disait tout à l'heure, où franchement j'ai pas l'impression que ce soit une question du point de vue de l'auteur. C'est-à-dire comment un auteur manquerait cette chance qui lui est offerte, tout simplement de la mise en travail, en avant d'une mise en travail au-delà de...
mise en, tout simplement aussi par la mise en corps, par l'obligation de corps de son propre texte, de l'état premier du texte. Alors, évidemment que quand on danse, lui disait aller-retour, table, scène, qu'un travail d'impro d'acteur, comment on manquerait ce travail d'improvisation pour, à partir de là, se dire mais comment leur fournir le matériau, quoi, comment alimenter la chaudière, et sur le risque ou sur l'image qu'ils nous proposent, quel écho de langue, quelle percée de langue on peut leur fournir, et inversement, si à tel autre endroit, nous, tout le travail qu'on a pu faire sur une personnage, de mettre autour du texte, de construire du texte qui va vers ce personnage. Dans Coltès, il y a des monologues qui sont faits pour ne pas être dits, qui sont explicitement dits, fragments de texte qui ne sont pas à dire. Comment ce travail-là, j'ai pas l'impression non plus que ce soit très très nouveau dans je pense tout simplement, par exemple, au travail de Georges Forestier sur Racine, sur la ponctuation de Racine, où il établit que toute la ponctuation, en fait, c'est tout simplement des indications orales pour que l'acteur, l'actrice en l'occurrence, ne mette pas une interrogation, même si la phrase est interrogative, mais qu'il veut que ce soit dit comme ça, comme une suite de strates plates, et qu'au contraire, il va mettre un point ou un point d'exclamation en plein milieu d'un endroit qui n'a rien à voir syntaxiquement, parce qu'il veut qu'à ce moment-là, son actrice mette... Et que ça aussi, ça passait par une relation scène-table. Je pense aussi à une autre époque... c'est très beau texte de Giraudoux sur la notion d'acteur, justement, c'est un très beau texte de Giraudoux sur Racine, mais où lui-même est complètement surpris qu'assistant à une répétition de Jouvet, qui sort de la salle et en trois quarts d'heure, il écrit une pleine page et il en enlève 10 autres. Et donc j'ai pas l'impression du tout que c'est nouveau. Par contre, cette question de la double légitimité du livre, moi je sors en septembre un texte de 300 pages qui s'appelle Déou, dans lequel il y a des fragments du théâtre, tout ça, mais le texte de théâtre, lui, va faire 42 pages, le texte qu'on va créer ce soir. Je pense aussi à Valère Novarina qui va travailler 2 ans pour faire, par exemple, La chair de l'homme. Il avait voulu tapisser en entier son atelier avec des pages manuscrites. Donc et effectivement, il a arrêté son livre le jour où l'atelier était entièrement tapissé de mots. Et là, il arrête le livre. Il est même arrivé que son éditeur POL vienne lui chouraver le manuscrit du discours aux animaux, et Valère, complètement perdu au milieu de la nuit, qui ne trouve plus son manuscrit, qu'est-ce que ça a dit ? Non, c'est POL qui lui avait volé le manuscrit pour l'éditer. Et à ce moment-là, Valère produit son texte. Et lui, en tant que metteur en scène, par contre, arrête définitivement l'état du texte. Mais c'est plus le même Valère, c'est plus le Valère qui écrit. Et cette idée de la double légitimité d'Olivier, mais je l'avais jamais entendu formuler de cette façon. Et c'est en ce sens-là, j'arrête là, mais je pense que c'est bien aussi que l'idée de Frédéric Fisbach, peut-être là, rebondit sur cette idée-là. Il dit j'ai plus d'attention quand je travaille sur un contemporain. Évidemment, on est devant une interrogation sur laquelle ni le metteur en scène ni l'auteur n'a de réponse. Donc, on est plus attentif ensemble, je crois, à donner la chance à l'inconnu et à pas le trancher avant même le fait de la scène. Et évidemment, c'est ce qui nous rapproche à une condition. C'est qu'on nous laisse les moyens de travailler. Et ça, c'est vraiment pas évident. C'est-à-dire que c'est là où je voulais finir. Ce paradoxe qui est que pour un auteur, ça aussi, c'était contenu dans ce que disait Ludovic quand il s'est mis à parler de Fairy Queen, d'Olivier, que ce que produit le théâtre, de ce que produit la mise en scène sur l'écriture, intervient forcément dans le texte suivant, c'est-à-dire qu'on n'intègre pas le dialogue avec le metteur en scène dans ce qu'on est en train de faire. Coltès, au moment où il écrit Key West, avant que Chéreau ait monté Combat de chiens, il a fini d'écrire Key West, il a fini d'écrire Solitude au moment où Chéreau construit Key West. Donc la Solitude est une réponse théâtrale à Key West, et ainsi de suite. Et là, il y a un petit paradoxe temporel qu'Olivier a bien souligné sur Olivier. Et c'est là où je voulais renvoyer à cet article de Bruno qui m'a déplu. C'est-à-dire, il dit le théâtre produit ses propres matériaux depuis la scène. D'accord, tous ensemble. Par contre, est-ce que le texte est malgré tout un matériau à égalité des autres par rapport à ce que tu disais en ouverture de ce langage et du code de la scène ? où effectivement, dès lors qu'il y a proposition de théâtre et travail auteur, metteur en scène, on obéit tous à ce code qui n'appartient qu'au plateau, et cependant, est-ce que le texte a le même statut que simplement la lumière ? Même si la lumière en est un vecteur.
Je crois que, on l'avait dit tout à l'heure, c'est que les positions sont différentes. Je crois que pour Jan Lauwers ou pour Fabre, le texte a exactement le même statut que la lumière. C'est que on peut être d'accord ou pas d'accord. Je crois que ce qu'il propose, c'est la déhiérarchisation. C'est-à-dire que le texte est produit en même temps que la représentation. Et qu'au fond, ces auteurs de la scène, c'est mon sentiment, ces auteurs de la scène produisent un texte qui est parfois problématique, mais de toute manière, c'est un texte qui est considéré d'une manière peut-être entre guillemets démocratique, ayant la même valeur que la scénographie, l'éclairage. Et j'avais trouvé une phrase intéressante de Barthes. Qu'est-ce que la théâtralité ? C'est le théâtre moins le texte. Est-ce que on pourrait interroger cette phrase ?
Moi, contrairement à toi, enfin, je pense qu'on pense la même chose, mais je formerai un peu les choses autrement entre le débat de la semaine dernière et celui-ci. Oui, c'est vrai qu'il y a une volonté que le texte ne soit plus une espèce de pivot autoritaire. Peut-être que c'est ça dont on hérite comme tradition très française. Hein, très autoritaire, et que c'est peut-être ça qui est battu en brèche. Mais il me semble quand même que dans le débat d'aujourd'hui, comme dans le précédent, il y a une sorte de conviction très forte qu'il y a derrière ou avant la scène une sorte de... Alors on a évoqué le sacré, mais on peut aussi dire le noble. On a évoqué la question de la noblesse. Il y a une sorte d'espace noble et sacré qui serait préalable à la scène et qui serait, je dirais, la fabrique à partir de laquelle quelque chose se fomente, se construit, se mature, que cette chose s'appelle atelier. C'est un mot qu'employait Jan Lauwers que je trouvais très fort. Je suis dans mon atelier. Atelier qui peut être un mot de théâtre d'ailleurs, qui s'appellerait le temps long que l'on prend pour soi, entre soi, avant même qu'il y ait représentation. Je crois que les uns et les autres, vous avez tous évoqué ce temps de maturation, ce temps préalable, où l'on dresse, j'ai beaucoup aimé la formule, où l'on dresse quelque chose pour le théâtre, mais avant le théâtre. J'ai l'impression qu'il y a deux temps. Il y a la table dressée sur la scène, mais il y aurait comme une table préalable, qu'on l'appelle dramaturgique, qu'on l'appelle atelier pour le plasticien, qu'on l'appelle atelier de l'écrivain, chambre de l'écrivain, tapissier de texte. Il me semble que ce n'est pas pour mettre tout le monde dans le même accord. Hein. Je crois qu'il y a des vraies différences esthétiques fortes, fondamentales. Mais il y a quand même ce double niveau, hein, d'un avant à traduire sur la scène.
Moi, je vois pas...
Excuse-moi, oui, là je répondais un peu puisqu'il m'avait été posé une question, mais je voudrais réouvrir le débat en demandant quand même aux uns et aux autres poser une question qui n'a pas au fond été fortement posée, c'est, vous dites les uns et les autres qu'il y a dans ces gestes d'écriture quelque chose qui excède le théâtre, ou que le théâtre ne rendrait pas compte de manière satisfaisante. Hein, et qu'il faudrait reprendre à nouveau frais, au fond, tous ces matériaux pour... Je vais reprendre un exemple concret pour être plus précis. Quand tu dis que tu as écrit un récit, un roman qui s'appelle Déhou, et qui va apparaître à la rentrée, qui fait 300 pages, la version scénique en fait 42... Il y a donc là bien deux niveaux d'écriture, de texte. C'est quoi la différence ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est joué dans le passage, si je comprends bien, de 300 pages ou 42 ? Qu'est-ce qui s'est opéré là ? Quel est le processus qui fait qu'on passe du roman au théâtre ? Ou de l'Andromaque traditionnel à l'Andromaque pour les Hollandais ?
Pour les Flamands, c'est autre chose.
Pour les Flamands.
Attention, hein, on peut tout nous dire, mais pas qu'on est hollandais, hein, quand même.
J'ai cru comprendre, parce qu'on a eu...
J'écris, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle La Belgique pour les débutants, et je vous conseille la lecture de cela.
Non, je vais vous faire un aveu terrible, je suis né à Bruxelles, donc c'est plutôt un lapsus.
Mais bon, oublions ça. Non, mais j'ai fait le même travail, au fait. J'ai écrit deux romans maintenant qui sont passés à la scène en spectacle stand-up comedy, qui sont des spectacles monologues humoristiques. Hein. Et la grande différence entre un texte littéraire et un texte un texte romancier, c'est que en un texte théâtral, c'est que en construisant un texte théâtral, on se pose explicitement dans la place, dans mon cas, dans la place du spectateur. On se pose les questions que le spectateur se poserait en lisant ce texte ou en inventant cette histoire. Donc, par exemple, dans le cas d'Andromaque, Andromaque s'est présenté à moi comme une sorte de labyrinthe. Et j'ai essayé de trouver mon chemin là-dedans en m'identifiant avec le public, en me mettant à la place du public. Et je crois que c'est très important de stresser pas, de souligner cela pour pas qu'on se mette sur un nuage en tant qu'artiste hors du public. Il faut vraiment tenir compte du public, il faut s'identifier avec le public à ce moment-là.
Moi, je voulais poser une question parce que je trouve que finalement, ces débats sont plus intéressants qu'on pouvait le penser. C'est qu'au fond, on...
Merci.
Non, parce que c'est vrai qu'on découvre des dialogues auxquels personnellement je n'avais pas pensé et que ça, j'étais très touché par ce que disait Luc sur l'inscription du passage du temps à travers la langue. Et au fond, le projet de Luc rencontre le projet de Frédéric où, dans l'illusion, une des choses que tu mets en scène, c'est justement ce travail donc des tranches temporelles que tu mets en scène en travaillant sur le texte de Corneille. Et justement, je voulais remarquer seulement cette coïncidence comme si le théâtre produisait à un moment donné des symptômes qui permettent aux artistes de communiquer. Parce que nous, malheureusement, on n'a pas connu le travail de Luc, mais tu fais un peu, dans le français, donc sans passer par la traduction, la même tentative. C'est-à-dire que la première tentative de trouver les équivalents en français contemporain des textes des mots anciens, la traduction écrite, pour arriver à la fin à une sorte d'acquiescement à la langue de Corneille. Donc,
on pourrait parfaitement monter l'illusion en traduisant complètement l'illusion comique, ce qui serait totalement possible. C'est-à-dire qu'on a fait en atelier, on a fait ça, on a travaillé sur un acte, on a retraduit tout l'acte en français contemporain. Effectivement, en mettant de côté les alexandrins, mais en essayant de voir ce que ça, voilà, comment arriver à, parce que, bon, alors après, c'est des points de vue sur les auteurs, mais si on parle de Racine, moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est un poète dramatique, en tout cas du point de vue français. Donc, c'est vrai qu'il y a la dimension poétique de l'écriture de Racine, influe énormément sur la façon dont je vais le porter à la scène, comme par exemple quand on a travaillé avec Bernard de Monté pour Bérénice, mais pour Corneille, on a vraiment affaire à un dramaturge, c'est un auteur de théâtre, et qui contextualise énormément sa pièce pour les spectateurs de 1635. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on rencontre d'une manière évidemment différente, mais comment est-ce qu'on rencontre de cet effort-là, de cet auteur, d'essayer de se faire entendre, de se faire comprendre, entre guillemets, de ses contemporains? Donc c'était un axe de travail énorme, évidemment, tout en disant on va garder tout. Mais on aurait pu très bien ne rien garder et tout retraduire. À ce moment-là, on aurait dit d'après l'illusion comique de Pierre Corneille. Mais bon, je voudrais juste revenir sur une chose. Bon, je sais que c'est un débat sur les mots, et bon, mais il y a juste... Alors ça tient peut-être au contexte aussi, hein, évidemment, mais il y a une chose qui... Moi, je me mets jamais à la place du spectateur. Je peux pas me mettre à la place du spectateur. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est un travail sur les subjectivités et sur essayer de repousser au plus loin le moment du... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choix. Évidemment, il y a des choix à tous les moments, mais d'essayer de ne pas refermer ou de ne pas clôturer, en tout cas, le sens. Et c'est vrai que comment arriver à effectivement penser au spectateur sans présumer, c'est-à-dire comment le le prendre en compte tout le temps et essayer de lui offrir une proposition qui soit la plus palpitante possible, tout en ne présumant pas de la manière dont il s'en saisira. Ça, je trouve que c'est un enjeu. On parlait d'autorité tout à l'heure. Je crois que c'est peut-être un enjeu de nos pratiques aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est une chose qui... Enfin, j'espère en tout cas que c'est une chose qui est partagée, parce que ça me semble un enjeu essentiel aujourd'hui dans les arts de la scène. Et une chose sans doute qui peut, si on a besoin de se trouver des légitimités, qui peut légitimer nos pratiques aujourd'hui, justement sur cet effort de travailler sur des formes qui s'éloignent le plus possible de tout ce qui pourrait être autoritaire et jeu de pouvoir.
Moi, je vais poser une dernière question au travail que vous avez fait, Ludovic et Olivier. C'est le sentiment qu'on a quand même par rapport aux travaux de Jan Lauwers et des autres, c'est que peut-être il y a cette double légitimité, mais le sentiment, c'est que vous mettez en scène une écriture. Et que ce à quoi on est confronté, c'est justement au travail du plateau qui assume...
La notion d'écriture, c'est pas la notion de texte.
Voilà.
Nous, on est des artisans et ces mecs-là, ils sont à notre service. C'est toi qui nous sers. Alors, explique-nous en quoi l'écriture n'est pas le texte.
Mais c'est ça la question importante.
En quoi l'écriture n'est pas le texte.
Après ça, c'est le tour de Ludovic. Laisse Ludovic que tu réfléchis.
Il est aussi.
Non.
Tu réfléchis à la question, Ludovic, si vous voulez répondre.
Ben oui. La réponse est oui, bien sûr, je mets en scène les textes d'Olivier Cadio. Simplement, par rapport à tout ce qu'on se disait là, peut-être deux choses. C'est que d'une part, comment faire pour passer ces textes au théâtre? Mais encore une fois, je vais aller convoquer de l'extériorité. C'est-à-dire qu'on va travailler, je travaille avec un écrivain, pour travailler sur le mouvement, parce que je pense qu'il faut passer par un certain type de travail sur le mouvement avec les acteurs. Alors, je vais demander à Odile Duboc, ou à Stéphanie Ganachon, une danseuse de chez Odile, de venir travailler avec nous, pour nous conseiller, pour inventer un autre rapport au mouvement sur la scène. On travaille sur la musique et sur le son, alors je vais demander à un musicien de venir travailler avec nous. Et voilà. Mais simplement, l'idée, c'est de pas... Alors ça, c'est une chose très importante, hein, et dès le colonel Desoives, hein, c'était d'inviter, de convier toutes ces disciplines au théâtre, pas pour faire une lecture de littérature contemporaine, hein, pas pour faire une installation sonore, pas pour faire un théâtre qui ressemblerait à la danse contemporaine, pas pour faire, etc., etc., mais pour faire du théâtre. C'est-à-dire pour nourrir le rapport scénique, pour nourrir la forme qu'on doit inventer ensemble pour arriver à transcrire, à passer ce texte au théâtre aujourd'hui. Donc au fond, c'est des techniques. On change de modélisation, on passe de la littérature au théâtre. Alors, quelle technique on peut convier pour faire passer ce texte au théâtre? Donc quel théâtre on doit inventer pour rendre opérant le texte d'Olivier à la scène. Et c'est ça l'idée. Donc moi, je revendique absolument ce statut de metteur en scène, encore une fois, mais effectivement, j'essaye de faire rentrer dans le théâtre tout ce dont j'ai besoin, tout ce que d'autres disciplines peuvent apporter à ce travail-là pour trouver un mode opératoire pour passer ces textes d'Olivier à la scène. Après... ces techniques-là, ben, elles glissent vers d'autres formes. Là, on joue une pièce de Gertrude Stein qui est une pièce absolument écrite. Enfin, c'est pas une adaptation de la pièce de Stein. Olivier a traduit la pièce de Stein, il n'a pas changé une chose. Donc c'est une pièce de théâtre. Simplement, Stein c'est Stein, et puis du coup, ça travaille. Hein. Et puis, au fond, ce qu'on invente avec Olivier ou avec les acteurs, ben, nous sert à faire du théâtre autrement quand on monte une pièce de Stein, et ainsi de suite. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions? Avant que...
Il veut vraiment que je réponde. Ouais. C'est évidemment improvisé, mais il y a quand même une... Alors, il y a une intuition évidemment très, très juste dans ce que tu voudrais me faire dire, c'est qu'il y a aujourd'hui un théâtre de dramaturge, alors au sens vraiment grec du mot, c'est-à-dire pas au sens de l'interprétation, mais au sens de la production du drame,
qui est important et qui est, je dirais, très minoritaire, qui a été sur ces 20 dernières années minoritaire, d'abord parce que les écrivains de théâtre disaient qu'ils n'écrivaient plus de drames, beaucoup, ils ont revendiqué ça, on fait autre chose, et qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écrivains de théâtre qui disent, à rebours, nous écrivons des drames. C'est vrai qu'Olivier Puy, c'est peut-être le plus celui qui va le plus loin là-dedans, puisqu'il dit non seulement j'écris un drame, mais c'est un drame épique, je vais jusqu'à l'épopée. Donc on ne peut pas faire plus théâtral, je dirais. Alors il y a cette tendance-là, et du coup lui-même dirait, je crois, que beaucoup des formes qu'il voit aujourd'hui, y compris ici à Avignon, sont effectivement pas des formes théâtrales. C'est-à-dire, ne font pas droit, dans ses mots, il dirait, ne font pas droit au poème.
Ah bon ?
Oui, il dirait ça, bien sûr. Il le dit d'ailleurs, il le dit tout le temps. Beaucoup de
On
formes.
Va lui répondre.
Mais je pense pas qu'il pense à Cadio, par exemple. Je pense qu'il pense, mais alors prenons des exemples concrets, je pense qu'il pense au statut du texte dans un spectacle comme celui de Yann Fabre. Il dirait, Yann Fabre, dans L'Ange de la Mort, utilise des matériaux, un musicien, un texte, une vidéo, un danseur enregistré, une femme présente ici, et ce sont des matériaux, en effet déhiérarchisés.
Oui.
Et aucun de ces cinq matériaux ne fait poème. Il, pour garder le mot, il participe au poème. Mais le poème, il serait du côté de Yann Fabre.
Mais est-ce que c'est
il
pas...
serait pas du, il serait pas du côté du monsieur qui a écrit le texte, pour parler très simplement. Alors, donc il y aurait cette tendance-là. Puis de l'autre, et moi j'ai pas du tout envie de choisir, moi je te réponds d'emblée que j'ai pas envie de choisir.
Dans le mouvement, t'as choisi.
Non, j'ai pointé une chose qui me paraissait majoritaire dans ce festival. De l'autre, c'est vrai qu'il y a des gens pour qui la notion de poème, je dirais, s'est transmuée dans plein d'autres endroits. Et c'est vrai que moi, je trouve que dans l'écriture de Cadio, dans l'écriture de Bon, je les mets exprès ensemble, dans l'écriture de Pipo, car pour moi c'est une écriture, dans l'écriture de Garcia, car pour moi c'est une écriture, je prends exprès ces quatre exemples, je pense que là, il y a du poème, qui ne fait pas du poème le sacro-saint pivot qui organiserait tout, mais il y a du poème qui fait du sens, quoi. Il y a du théâtre qui fait sens, qui fait vraiment sens, parce que tout d'un coup, on a des gens qui disent, je trouve très juste ce que vous dites, pour parler de ce qui advient aujourd'hui, pour le rendre possible, pour le rendre accessible, pour le traduire, on est obligé de se préoccuper des moyens, des outils qu'on a. Et on ne peut pas garder les outils du passé, on doit travailler au présent. Voilà. Il me semble, pour finir de te répondre, que l'écriture, si elle est d'aujourd'hui, a besoin de se défaire des outils textuels de passé et d'inventer des nouvelles formes. Je ne sais pas si c'est...
Mais c'est pas le... Est-ce que c'est l'écriture qui doit inventer les nouvelles formes ? C'est-à-dire que l'écriture, c'est l'écriture. Celui qui cherche, celui qui travaille, l'écrivain, François, l'autre, Olivier, mettent au point des dispositifs littéraires à l'intérieur de leur recherche, de leur travail. Ce qui est intéressant aujourd'hui, je pense, c'est que en travaillant à côté d'eux, on est sommé par le texte, par cette inventivité, par leur travail de création, par leur de nous-mêmes réinterroger nos pratiques, tout simplement pour pouvoir passer ces textes-là. Donc effectivement, on est dans un moment, moi je sais que c'est ça qui compte pour moi, où je dois réinterroger ma pratique, la re-questionner, la traduire autrement, faire rentrer d'autres disciplines à l'intérieur, pour trouver des solutions. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression quand même qu'on tourne autour de ça depuis tout à l'heure, parce qu'au fond, toutes ces formes dont on parle, hein, place du texte, pas place du texte, texte devant, texte derrière, hein, elles participent de ce mouvement-là en ce moment, c'est-à-dire au fond, une nécessité de réinterroger le théâtre de l'intérieur, et le texte vient nourrir ça. Moi, je sais qu'Olivier, au début, je ne comprenais pas, il me disait, mais il faudrait, quand tu as fini ton travail, quand on joue la pièce, le texte est disparu. Mais voilà, et donc c'est intéressant parce que moi j'ai mis 10 ans à le comprendre et puis je commence à pouvoir un peu le faire, ou les acteurs arrivent à le faire, enfin je ne sais pas qui y arrive, mais il y a quelque chose de ça. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un travail, hein. Ça a travaillé quoi, ça a travaillé et ça a donné une forme de théâtre. Différente, nouvelle, je ne sais rien, originale, peu importe, mais en tout cas, quelque chose. Donc ce qui reste, c'est du théâtre. Alors c'est vrai que ça vient en opposition, ça vient en rupture avec peut-être 20 ans de tradition là en France, où on a exposé le texte un peu comme une vitrine, hein, en résumé. C'est-à-dire que l'idée, et puis c'était toute la tradition du théâtre réaliste à la française, hein, c'est le réalisme à la française. Vous allez voir, tout ça va donner naissance à un nouveau réalisme français. Vous allez voir. Mais c'est intéressant. Et au fond, on a passé 20 ans à tourner un peu autour du texte, à l'exposer, jusqu'à en augmenter les phonèmes de manière considérable pour pouvoir, à l'intérieur d'un mot, avoir trois sens à l'intérieur d'un phonème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire là. Vitrine exposable, énorme. Donc, je crois qu'on commence à en avoir fini avec ça. Il y a une demande, il y a une nécessité de retrouver du naturel, hein, de retrouver un autre type de rapport au théâtre, hein, qui engage la question du réalisme aussi, probablement, c'est pour ça que je dis ça. et qui, voilà, et c'est en train de se transformer, je crois, ce rapport-là au texte est en train de se transformer, donc le rapport à la corporalité, à l'idée de, aussi de l'énonciation des textes, à l'idée de la profération, voilà, donc ça engage, voilà, on est dans de la vitesse, on est dans autre chose, on est dans le dans un rapport peut-être plus intime, on expose mais des choses plus intimes, voilà. C'est tout ça qui est en train de se bouger, j'ai l'impression.
Nous vous remercions et je remercie tous les artistes.